tous et bienvenue dans votre magazine Carrefour Science et Santé. Maëlys Hegel en votre compagnie pour les 30 prochaines minutes. Aujourd'hui, nous parlons de l'espace, de fusées, de l'univers, de stations spatiales. Et nous allons discuter avec un astronaute français qui a fait 3 voyages dans l'espace. Il nous expliquera ce que c'est de voir la Terre depuis un hublot et de se sentir flotter en apesanteur.
On fait le tour de la Terre en 1h30. On traverse la France, par exemple, en 2 minutes. Donc on passe très rapidement des glaciers au désert, aux forêts tropicales, aux grandes chaînes de montagnes comme l'Himalaya, aux atolls turquoises de Polynésie française. Donc c'est magnifique. Les sensations sont très visuelles par le hublot. C'est vraiment un spectacle unique et magique.
Ne quittez pas, c'est tout de suite dans Carrefour Science et Santé sur VOA Afrique. Et tout de suite, Eric Manirakiza va nous raconter l'expérience de 340 jours dans l'espace des 3 astronautes de la NASA, dont l'américain Scott Kelly. Alors Eric, explique-nous tout ça. À quoi ça sert de passer autant de temps dans la Station Spatiale Internationale ?
Eh bien, ça sert à beaucoup de choses, Maëlys. Tenez, le 27 mars 2015... 3 astronautes, dont l'Américain Scott Kelly et le Russe Michael Kornienko, se sont envolés vers l'espace. Ils sont revenus sur Terre mercredi dernier, le 2 mars, après avoir passé pratiquement un an dans la Station Spatiale Internationale, située à 370 km de la Terre. Incroyable mais vrai, Maëlys, c'est la plus longue période ininterrompue passée dans la station depuis que celle-ci est capable d'accueillir des passagers en 2000. Mais ce n'est pas le record du plus long séjour dans l'espace, puisque celui-ci revient au Russe Valery Polyakov, qui est resté 437 jours à bord de l'ancienne station spatiale Mir en 1994 et 1995. Bref, le but de son long séjour dans l'espace était de mener des expériences en vue de futurs périples sur la planète Mars. Les 2 astronautes ont donc été régulièrement soumis à des examens médicaux pour étudier les effets à long terme de la microgravité sur l'organisme humain. Et puis Maëlys, je viens de découvrir que le frère jumeau de Scott Kelly est également astronaute. Il s'appelle Mark Kelly et a participé à cette mission, mais en restant au sol. En effet, les données recueillies sur les 2 frères vont pouvoir fournir des points de comparaison sur les effets physiques et mentaux d'un voyage de longue durée dans l'espace. De premiers résultats se sont déjà fait connaître. Scott Kelly a grandi de 3,8 cm pendant son séjour dans l'espace. En effet, l'absence de gravité dans l'espace allonge le corps humain. Mais celui-ci retrouve rapidement sa taille initiale en revenant sur la Terre. La même chose sur les muscles et le squelette. Les astronautes doivent faire régulièrement de l'exercice à bord de la station spatiale pour les entretenir. La microgravité a également des effets sur la vision, qui est affectée à cause de la pesanteur. Les frères jumeaux doivent encore subir une année entière de tests physiques. Et l'utilité de ce voyage, Maëlys, était donc de voir comment les séjours de longue durée dans l'espace peuvent affecter l'organisme. Dans le but d'envisager des futurs périples sur la planète Mars, Scott Kelly a annoncé que cela pourrait être tout à fait faisable. Aller sur la planète rouge devrait prendre de 2 à 2 ans et demi, et c'est une motivation pour tous les astronautes du monde entier. En bref, Maëlys, je vous souhaite à toi et à nos auditeurs des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns, comme le pense bien Jacques Brel.
Merci beaucoup Eric Manirakiza pour ces précisions. Pour explorer l'univers, on fait appel à des astronautes. Ce sont des ingénieurs en aérodynamique qui sont entraînés toute leur vie pour réaliser leur mission. Ils sont engagés par des agences spatiales. Les agences spatiales sont des organismes nationaux ou supranationaux qui sont chargés de coordonner l'activité spatiale d'un pays ou d'un groupe de pays. Les plus connues et les plus puissantes sont la NASA, qui est l'organisme spatial américain, l'Agence spatiale fédérale russe, les agences japonaises, chinoises, et bien entendu l'Agence spatiale européenne, qui regroupe une 20aine de pays européens. Le but de ces agences spatiales est de contribuer à la connaissance universelle sur ce qui nous entoure, le cosmos, l'univers, la galaxie. Alors, On envoie des astronautes pour explorer le système solaire, pour comprendre comment évolue la planète Terre. On envoie des satellites pour permettre aux terriens d'utiliser les technologies de la télécommunication, pour connaître la météo, les changements climatiques. Bref, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais tout ce que font les astronautes dans l'espace affecte notre quotidien. Vous êtes bien sur VOA Afrique, vous écoutez Carrefour Sciences et Santé et nous parlons de l'espace. Mais qu'est-ce que c'est un satellite en fait ? Tout simplement, c'est un objet qui tourne autour d'un autre objet. Il y a des satellites naturels, comme la Lune, qui tourne autour de la Terre, et des satellites artificiels envoyés par les hommes dans l'espace. Le premier satellite artificiel a été lancé par l'URSS en 1957. Il s'appelle Sputnik. Depuis, plus de 20 000 satellites ont été envoyés dans l'espace. Les satellites tournent donc autour de nous en permanence et sont attirés par la gravité terrestre, comme tout le monde. Donc, pour ne pas tomber sur la Terre, ils doivent aller très vite, environ 28 000 km/h. Et pour ne pas se rencontrer dans le ciel, les satellites doivent suivre une route bien précise, c'est ce qu'on appelle les orbites. À quoi ils servent ces satellites ? À beaucoup de choses. Transmettre la télévision, le téléphone, observer la Terre, pour la météo par exemple. Une autre question que l'on se pose tous, que font les astronautes lorsqu'ils vont dans l'espace ? À quoi ça ressemble une journée là-haut ? Élément de réponse avec l'astronaute Jean-François Clairvoy.
Alors l'espace n'est pas si loin que ça finalement. Il est à en gros une centaine de kilomètres d'altitude au-dessus de nos têtes. Donc c'est quand même une grande distance par rapport à l'altitude des avions, mais c'est pas si loin que ça. On fait le tour de la Terre en 1h30 en volant à 28 000 km à l'heure. Donc on fait 16 tours du monde par jour avec la moitié du temps, notre vaisseau est éclairé par le soleil pendant 45 minutes et la deuxième moitié de l'orbite terrestre pendant 45 minutes, on survole le côté de la Terre qui est à l'ombre, donc on ne voit pas le soleil. À bord, on a un rythme de 24 heures, comme sur Terre, avec au moins 8 heures de sommeil programmé dans le plan de vol, même si la plupart du temps, on dort moins que ça. Et puis, il y a un peu de temps libre, environ 1 heure le matin, 1 heure le soir, pour faire sa toilette, pour le petit déjeuner le matin et pour le dîner le soir, pour ranger et installer son sac de couchage dans la couchette. Et puis la journée, on travaille. Alors sur les vols de longue durée à bord de la Station Spatiale Internationale aujourd'hui, les astronautes ont un peu de temps libre, le week-end est plus ou moins libre. Donc c'est des journées moins denses que sur les vols courts comme en navette spatiale, où on travaillait 14 à 15 heures par jour typiquement. Mais dans la station spatiale, c'est plutôt une dizaine d'heures de travail, avec parfois des phases intenses quand on a des sorties dans l'espace ou des vaisseaux ravitailleurs qui arrivent, où là, il faut travailler un peu plus longuement dans la journée parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sans s'interrompre. Mais sur les vols de longue durée, je comparais la vie à bord comme du camping, sa nourriture, la toilette, les besoins, le dormir.
Quels sont vos sentiments quand vous êtes dans un vaisseau ? Est-ce que vous voyez la Terre ? Est-ce que vous voyez la Lune ? Ça fait pas peur de se sentir aussi loin de la planète et dans un petit vaisseau en plein milieu de nulle part ?
Alors c'est vrai que quand on regarde du côté du ciel noir, dense, obscur, vide de tout, en direction opposée du Soleil ou de la Terre, on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre que nous. Et quand on voit la Terre, même sur fond noir, on pense qu'il n'y a rien d'autre. Parce qu'on ne voit pas les étoiles, parce que la pupille de l'œil n'est pas assez adaptée à l'obscurité. Il faut éteindre toutes les lumières dans le cockpit, dans le vaisseau, lorsqu'il n'y a plus de soleil ou la Terre dans le champ de vue, dans une orientation telle qu'on ne voit que le ciel noir du cosmos. Et là, progressivement, les yeux s'ouvrent et on voit des étoiles par milliers. C'est fantastique. Mais en général, on est proche de la Terre. C'est une grosse boule bleue qui nous paraît assez proche. On la voit beaucoup plus grosse que les astronautes d'Apollo qui, de la Lune, la voyaient comme une petite boule au loin. Nous, on est quand même à 400 km, donc 400 km. La station spatiale est à 400 km, mais la Terre, elle couvre un champ de vue de 120 degrés. Donc ça prend presque tout le champ de vue quand on la regarde par le hublot. On tombe amoureux de la planète parce qu'on la trouve très belle. C'est à cause des contrastes de couleurs, c'est le fait qu'elle abrite la vie. Donc on voit du vert, du bleu, du turquoise. C'est des couleurs émises par les éclosions de phytoplancton en particulier. Et puis elle est vivante, donc elle force le respect quand on voit les ouragans, les volcans, et tout ça, ça tourne très vite. On fait le tour de la Terre en 1h30. On traverse la France, par exemple, en 2 minutes. Donc on passe très rapidement des glaciers au désert, aux forêts tropicales, aux grandes chaînes de montagnes comme l'Himalaya, aux atolls turquoises de Polynésie française. Donc c'est magnifique. Les sensations sont très visuelles par le hublot. C'est vraiment un spectacle unique et magique. L'autre sensation fantastique, c'est l'absence de sensation de poids. On est en apesanteur tout le temps de la mission. Donc on n'est ni attiré vers le haut ni vers le bas. On est en chute libre. On tombe en étant toujours attiré vers la terre, mais on tombe sans jamais rencontrer d'obstacle parce qu'on a cette grande vitesse horizontale. C'est comme si vous lanciez un objet horizontalement devant vous à très grande vitesse. S'il n'y a rien qui freine la vitesse de cet objet, eh bien à 28 000 km/h, il tombe attiré par la terre, comme la Lune d'ailleurs, qui est beaucoup plus loin, mais qui tombe attiré par la terre, mais indéfiniment parce qu'on a cette vitesse de satellisation. Et cette sensation de chute libre continue fait qu'on ne sent pas son poids et on arrive même à ne plus sentir qu'on a un corps. On voit plus, si on baisse pas les yeux pour voir nos jambes, nos bras, comme on peut se trouver facilement dans des situations où aucun muscle est contracté, eh bien on flotte librement et c'est assez magique et ludique aussi.
Comment c'est le retour sur Terre du coup ? Est-ce que c'est pas trop dur de s'adapter à la gravité terrestre ?
Quand on arrive dans l'espace, ça prend un ou deux jours pour s'adapter. Il y a malheureusement un astronaute sur quatre en moyenne qui vomit, qui ressent des nausées comme le mal de mer, mais ça passe assez vite. Le retour sur Terre met plus de temps parce que l'oreille interne, qui est le sens de l'équilibre, a perdu toutes ses références pendant le vol spatial. Ça prend plus de temps à ce système vestibulaire, comme on l'appelle, de retrouver ses références de verticalité. On se sent très très lourd, on a perdu de la masse osseuse, on a perdu de la puissance musculaire malgré les exercices quotidiens faits chaque jour dans l'espace pour entretenir le corps. Donc il y a plusieurs fonctions qui sont altérées, qui sont modifiées en apesanteur, qui nécessitent pas mal de temps pour être réhabituées. Mais dans tous les cas, un astronaute qui revient sur Terre, même après un vol de un an, comme Scott Kelly et Mikhail Kornenko, il va pouvoir se tenir debout dans les heures qui suivent l'atterrissage. Il va pouvoir marcher en gardant les yeux ouverts. Mais il pourra se sentir capable d'une vie normale seulement au bout de deux ou trois semaines.
Merci Jean-François Clairvoy. Vous êtes bien sur VOA Afrique dans le magazine Carrefour Sciences et Santé et nous parlons de l'espace. Nous avons la chance de pouvoir discuter avec l'astronaute Jean-François Clairvoy qui a exécuté 3 missions spatiales avec la NASA. Jean-François Clairvoy, j'imagine que vous avez suivi de près la mission spatiale de l'Américain Scott Kelly et du Russe Mikhail Kornienko qui ont passé 340 jours dans la Station Spatiale Internationale. Vous voyagiez sur des petites durées dans les années 90. Qu'est-ce qui a changé depuis et comment les voyages dans l'espace sont évolués ?
La différence avec les vols d'aujourd'hui, c'est essentiellement le fait que les vols sont tous des vols longs de plusieurs mois, mais en ce sens, ils ne sont pas différents en termes de sensations, d'émotions, de façon de mettre en œuvre, de piloter les systèmes, de ce que faisaient les Russes à bord de leur station spatiale Salyut et Mir dans les années 80 et 90. Mais la technologie est un peu plus avancée. Donc ce qui change le plus, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on a de meilleures connaissances, parce qu'on a fait des recherches au cours des décennies passées, sur comment aider le corps humain à rester capable de revenir sur Terre en cas d'urgence, c'est-à-dire et à s'adapter à la pesanteur, à être performant. Et surtout, les réseaux sociaux, Internet, dont on dispose aujourd'hui à bord de l'ISS, permettent aux astronautes de converser avec leur famille, avec leurs proches, comme sur Terre, ça s'est développé aussi beaucoup. Donc Scott a maintenu une relation avec ses proches par email. Moi, je conversais avec lui par email, par téléphone. Ça, c'est arrivé qu'il m'appelle sur mon portable. On peut faire n'importe quel numéro de téléphone au monde à tout moment depuis la station spatiale. Et puis il a tweeté tous les jours, une ou deux fois par jour, deux, trois fois par jour, en envoyant des photos et puis en envoyant ses sensations. Voilà, donc je dirais que ce qui change le plus entre aujourd'hui et les vols des années 90, c'est surtout la capacité qu'ont les astronautes à être connectés en permanence avec le monde terrestre.
Après votre retour sur Terre, quels sont vos sentiments ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir contribué à quelque chose de grand ?
Bien sûr, les astronautes, leur obsession, c'est atteindre l'objectif de la mission. Un astronaute ne veut surtout pas revenir bredouille en disant « Ah ben ça, c'était trop dur, j'ai pas réussi à le faire ». Donc les astronautes n'ont pas vraiment la peur de mourir parce que c'est une sorte de peur qui est évacuée assez vite par justement ce professionnalisme et cette compétence très aiguë qu'on acquiert pendant entraînement, mais il a peur de faire l'erreur qui va saboter une expérience scientifique, par exemple. C'est pour ça que l'astronaute travaille à atteindre un niveau d'excellence très élevé, et à la fin, on est content d'avoir accompli la mission. Quand on rentre de ma mission, par exemple mon troisième vol, en ayant rendu le télescope spatial Hubble 100% opérationnel disponible pour les scientifiques, un sentiment d'accomplissement, d'avoir atteint l'objectif, d'avoir accompli la mission avec succès qui est très fort. C'est une satisfaction qui compte dans le plaisir de faire ce métier.
Merci Jean-François Clairvoy. Vous êtes toujours sur VOA Afrique avec Maëlys Segel. Carrefour Sciences et Santé vous parle aujourd'hui d'espace. Et nous sommes en compagnie de Jean-François Clairvoy, un astronaute français. L'espace, ça nous paraît inaccessible et déconnecté de la réalité. Mais en quoi ce qui s'y passe peut affecter la vie de l'homme ordinaire sur Terre ?
L'espace en général est très 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 utile. Je parle de toutes les activités spatiales. Enfin, la grande majorité des activités spatiales sont des activités spatiales à caractère commercial qui rendent service au quotidien aux terriens, qui vous donnent la météo, qui vous donnent la télévision grâce aux fameuses antennes paraboliques, qui vous donnent des photos de la Terre permettant de gérer les catastrophes naturelles, les ressources, la gestion des cultures par exemple, et puis évidemment les satellites qui permettent d'avoir votre position à tout moment sur Terre avec une précision de l'ordre du mètre. C'est ce qu'on appelle le GPS. Si on éteignait les quelques centaines de satellites qui tournent autour de notre tête, si on les éteignait tous simultanément, ce serait le chaos très grave instantanément sur Terre pour tout le monde. Ce serait vraiment très grave. Pour les transactions financières, pour la navigation des avions basés sur le GPS, pour toutes les activités qui sont basées sur la météo, il y aurait la moitié de la population, même plus, disposant de la télévision, qui n'aurait plus la télévision. On ne se rend pas compte, mais l'espace est présent au quotidien dans plusieurs activités dont on ne peut plus se passer. Maintenant, en ce qui concerne l'exploration spatiale, avec des robots et avec des humains, ce qu'apporte, c'est surtout de faire avancer la connaissance. La connaissance sur comment fonctionne le corps humain. Donc, ce qu'il y a de remarquable, c'est que sur des sujets totalement sains d'un point de vue médical qu'on envoie dans l'espace, donc les astronautes, il se passe des phénomènes qui, sur des personnes sur Terre, seraient significatifs d'une maladie. Par exemple, le sida par perte d'immunité. Et dans l'espace, on observe une déficience immunitaire importante chez tous les astronautes sur les vols de longue durée. On observe un déconditionnement cardiaque. Ça permet d'avancer sur la connaissance du système cardiovasculaire pour apprendre à mieux gérer les maladies cardiaques. On observe une perte de densité osseuse, donc ça permet de progresser sur les moyens de contrer l'ostéoporose qui affecte une grande partie de la population, en particulier quand on vieillit. On apporte beaucoup de connaissances dans les disciplines médicales qui aident à faire avancer les moyens de soigner ces maladies sur Terre. Et puis bien sûr, au sens plus philosophique, on aide à répondre aux questions sur d'où l'on vient, qui l'on est, pourquoi on est là, où l'on va, où est-ce qu'on pourra s'expatrier un jour si la Terre devient inhabitable dans le futur, dans un lointain futur, mais elle deviendra inhabitable à un moment donné, pour sûr. On sait aujourd'hui que dans 1 milliard d'années, la Terre sera invivable pour les mammifères. Elle sera invivable pour toute forme de vie à sa surface. Donc, soit l'homme n'a pas appris entre-temps à vivre ailleurs, et l'espèce humaine disparaîtra, et avec tout ce qu'on a pu amener de connaissances, de sagesse, de spirituel, c'est peut-être pas grave, hein, mais ça, on peut se poser la question. Soit on aura appris petit à petit, on a le temps, mais il faut quand même commencer si on veut y arriver un jour. On aura appris à vivre ailleurs et on aura permis comme ça à l'espèce humaine de perdurer.
Merci Jean-François Clairvoy. Vous êtes dans Carrefour Sciences et Santé sur VOA Afrique depuis Washington. Maëlys Segel en votre compagnie et nous parlons des voyages dans l'espace avec l'astronaute Jean-François Clairvoy. La question des auditeurs maintenant, et c'est Alphonse Boisqui qui demande pourquoi toutes les grandes nations envoient leurs hommes dans l'espace. Est-ce que c'est une guerre internationale spatiale et une recherche de leadership où chaque nation veut inscrire son nom dans l'histoire, Jean-François Clairvoy ?
Au départ, c'était une compétition entre les Russes et les Américains pour aller sur la Lune. Aujourd'hui, l'homme dans l'espace n'est plus l'objet d'une compétition, mais d'une coopération. Et c'est une merveilleuse coopération puisqu'il n'y a pas une seule transpiration des conflits terrestres au niveau spatial. Dans la Station Spatiale Internationale aujourd'hui, auquel malheureusement les Chinois ne sont pas encore partenaires, mais j'espère que ça viendra, c'est les Américains qui l'ont empêché. Mais aujourd'hui, vous avez les Japonais, les Canadiens, les Russes, les Américains et les Européens qui travaillent ensemble dans l'ISS comme frères et sœurs, qui se rendent service mutuellement par des vaisseaux ravitailleurs de l'un qui amène les pièces de rechange de l'autre, etc., sans que les conflits, comme par exemple le conflit ukrainien, ne perturbent en quoi que ce soit cette coopération. Donc, c'est pas du tout la guerre, c'est l'inverse. c'est un domaine d'excellence de coopération internationale pacifique. Dans le domaine commercial, les communications, la navigation par le GPS, la télévision directe, les photos pour chercher les ressources, par exemple les ressources minières, là c'est la compétition. C'est la compétition entre industriels qui concourent pour vendre leurs satellites. Et c'est une compétition saine, comme pour l'industrie de l'automobile, l'industrie de l'aéronautique, etc. Il ne s'agit pas de guerre, il n'y a pas de guerre dans l'espace. Il y a un traité international d'ailleurs qui interdit de placer des armes destructrices dans l'espace. Mais c'est avant tout, l'homme dans l'espace, un enjeu géopolitique, stratégique, de démonstration de quoi on est capable. Ça participe à l'image d'un pays, un pays qui maîtrise le vol habité, c'est un pays qui maîtrise des technologies à un niveau très élevé. C'est au nom de l'humanité qu'on explore l'espace, avec des robots, avec des humains, et pas un pays pour avoir plus de données qu'un autre.
On va finir par une question très simple. À quoi ça sert concrètement d'aller dans l'espace ?
C'est à la fois un intérêt géostratégique, montrer la puissance d'un pays, un intérêt économique en rendant l'industrie compétitive dans les appels d'offres pour les satellites commerciaux, donc dans des activités spatiales où il n'y a pas l'homme dans l'espace. C'est aussi un aspect important pour inspirer la jeunesse. Et quelque part, sur le plan philosophique, eh bien, ça nous sert à avancer sur la solution qui permettra de sauver l'humanité un jour quand la Terre deviendra invivable. Ça sert à rendre la société plus savante, plus performante et quelque part plus sage, parce que la sagesse progresse avec la connaissance, et l'exploration spatiale en particulier avec le vol habité permet de faire progresser la connaissance.
C'était votre rêve, vous, quand vous étiez enfant ?
Je rêvais d'aller dans l'espace, mais je rêvais pas du tout d'être astronaute. J'ai jamais pensé, gamin, que je voulais aller dans l'espace pour y exercer mon métier, mais je voulais y aller pour voler, pour voir la Terre de haut. J'imaginais que j'irais en vacances ou que j'irais pour le plaisir. C'est plus tard que j'ai réalisé que pour aller dans l'espace, le seul moyen, c'était d'en faire son métier. Et je regrette pas.
Merci infiniment Jean-François Clairvoy pour ce témoignage qui va en faire rêver plus d'un. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les vols habités dans l'espace, Jean-François Clairvoy vient de publier un livre appelé « Histoire de la conquête spatiale » aux éditions Vuibert. Et dans le continent africain, où en est le spatial ? Pour le comprendre, voici les explications de Sekou Ouédraogo, d'origine burkinabé. Il est ingénieur dans le domaine de l'aéronautique et auteur du livre « L'Agence spatiale africaine » aux éditions L'Harmattan. Alors Sekou Ouédraogo, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Ce qui m'a intéressé, c'est de regarder un peu ce qui se faisait en Afrique en termes de spatial. Je me suis intéressé aux pays leaders que sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Kenya. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait des agences spatiales nationales qui existaient. J'ai des choses intéressantes, donc la plupart tournées vers justement l'aide à leur propre développement. Et après j'ai regardé s'il n'y avait pas des choses qui se faisaient au niveau panafricain. Donc j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'initiatives qui étaient menées donc depuis un certain temps. Est-ce qu'il ne serait pas bien de mutualiser les ressources africaines pour peut-être les rendre un peu moins cher et permettre à l'ensemble du continent d'en profiter. J'ai proposé la création d'une agence spatiale africaine pour mettre au service des Africains les applications satellitaires dans un premier temps, faire bénéficier à l'ensemble du continent des fruits du satellite et puis fonctionner de façon à peu près correcte, quoi. Le Niger a 5 satellites, l'Afrique du Sud en a 2, l'Algérie en a 2 et est en train de concevoir son 3e satellite. Donc il y a des satellites qui tournent. Le spatial, ça peut être a priori un caractère un peu high-tech. On peut croire que c'est quelque chose qui est loin des Africains, mais il faut que les gens sachent qu'il y a des gens en Afrique qui travaillent sur ces problématiques. Il y a des agences nationales qui ont de l'ambition. L'Algérie a notamment un budget de 800 millions de dollars qui est justement destiné à développer son aérospatial. Elle est en train de concevoir son satellite seul avec ses ingénieurs. On a les Sud-Africains depuis les années 70 qui travaillent dans le domaine avec les Américains. On a des gens qui commencent à avoir vraiment des compétences intéressantes.
Merci beaucoup Sekou Ouédraogo. Son livre « L'agence spatiale africaine » est disponible aux éditions L'Harmattan. Le connu est fini, l'inconnu infini. Ce que nous comprenons n'est qu'un îlot perdu dans l'océan illimité de l'inexplicable. C'est sur cette jolie citation de Thomas Henry Huxley, philosophe britannique des années 1880, que l'on se quitte. Merci à tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Maëlie Segal pour Carrefour Sciences et Santé sur VOA Afrique. Bienvenue à...